Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue à Radio Créum. Éthique en série avec Martin Winkler et Daniel Weinstock.
Dans Mad Men, bien que ça s'appelle Mad Men, il y a beaucoup de femmes. Ce qui est tout à fait extraordinaire, justement, c'est que ça décrit donc une société dans laquelle les femmes ont une place qui est finalement à peine supérieure à celle des boss boys noirs qui font monter et descendre l'ascenseur ou qui servent les gens qui servent les blancs dans les cafés, alors qu'on se trouve à New York quand même. Les femmes sont secrétaires, elles sont épouses. Mais alors il y en a une qui est une femme d'affaires, qui est la fille d'un homme qui possède de grands magasins. Et elle, effectivement, elle a beaucoup d'argent. Mais si elle a du pouvoir, c'est parce qu'elle a de l'argent. C'est pas parce qu'elle est une femme.
Il y a également la femme du comédien.
Et il y a la femme du comédien, qu'on voit beaucoup plus tard. Et qui est elle aussi une femme, une maîtresse-femme qui manipule un petit peu les gens à droite et à gauche. Mais il y a un discours extrêmement important, justement, sur ce que peuvent devenir les femmes dans ce type de société. Comme dans toutes les séries, il y a un candide qui est une candide dans Mad Men, c'est Peggy. Peggy, c'est cette jeune femme qui est embauchée pour la première fois dans la société dans laquelle travaille Draper, qui devient d'ailleurs sa secrétaire, et qui est une jeune femme qui est très discrète, qui est très réservée, qui est très travailleuse, mais qui a des ambitions. Et d'ailleurs, au fil de la première saison et au début de la fin de la première saison, au début de la deuxième saison, elle va changer de statut parce qu'elle va devenir une des writers, une des rédactrices de slogans.
Et c'est une femme qui je n'ai pas regardé toute la deuxième série. J'ai l'impression qu'on va apprendre des choses sur elle. Je me trompe peut-être. C'est une femme qui, comme beaucoup de ces autres femmes, fin des années 50, début des années 60, ne se sont pas encore affranchies du fait d'être et de comprendre qu'elles ne peuvent être que des objets de consommation pour les hommes. L'arrivée d'une nouvelle secrétaire est l'occasion de ce qui aujourd'hui s'appellerait tout simplement du harcèlement sexuel à répétition et en série. Qui sera le premier à la séduire, et loin de trouver ce rôle problématique, les femmes s'y prêtent, s'y adonnent, avec différentes attitudes. Au tout début de la série Mad Men, Peggy va coucher avec un des jeunes exécutifs qui va
se marier d'ailleurs.
Il se marie le lendemain et on comprend très rapidement dans la première série qu'elle porte son enfant.
Non, on ne comprend pas ça très rapidement. On le sait au dernier épisode. On ne sait pas qu'elle est enceinte. On la voit prendre du poids, mais on ne sait pas pourquoi. Et à la fin, elle accouche. Mais ce que je trouve aussi très, très intéressant, c'est qu'elle couche avec lui non pas parce qu'il la force, mais parce qu'il s'établit une relation affective entre deux. Et lui, c'est un garçon qui est pétri de terreur à l'idée de se marier avec la fille d'un homme très riche, d'ailleurs, qui est d'ailleurs un client de la société. Et c'est une sorte de conduite d'échappement qu'il a avec Peggy, parce que finalement Peggy est plus le type de femme avec qui il pourrait rentrer en relation et créer un couple que la femme qu'il va épouser. Donc il se crée entre eux un lien qui d'ailleurs va se prolonger au fil de la deuxième saison. Il se crée entre eux un lien qui est un lien qui est, comment dirais-je, contraire finalement à l'ordre des choses, à l'ordre de la société. Ça reste d'ailleurs un lien clandestin. Personne ne saura qu'ils ont eu une relation ensemble et qu'elle a été enceinte de lui.
Il y a un autre personnage féminin fascinant, nous avons tous les deux oublié son nom, qui est la pulpeuse Ruth.
La secrétaire, oui.
Qui est un peu la secrétaire en chef, le office manager de ce bureau, qui représente en quelque sorte la femme qui est arrivé à échapper à son statut de simple secrétaire, mais en jouant pleinement, chose que Peggy ne fait pas du tout. Peggy est une fille plutôt simple, jolie, mais
oui,
mais
qui joue pas de sa, qui joue pas de sa sexualité.
Cet autre personnage dont nous souviendrons bien
c'est
du
pas,
nom.
C'est pas Ginny ou quelque chose comme
oui,
ça.
Voilà, ouais, voilà.
Ginny.
Qui est arrivé donc ayant couché avec un des partenaires de la firme.
Oui, qui est la maîtresse plus ou moins, la maîtresse officielle.
La maîtresse officielle d'un des partenaires, mais en jouant pleinement la carte de la sexualité féminine, comprenant que dans une société organisée comme l'est encore celle de l'Amérique des années 50-60, que la sexualité est ultimement la principale arme dont dispose la femme. Alors il y a entre Peggy et d'ailleurs il y a une tension entre Peggy et Ginny. Lorsque Peggy reçoit sa promotion, c'est quelque chose que Ginny vit très difficilement,
oui,
parce qu'elle se rend compte qu'elle a peut-être tort, qu'il y a peut-être d'autres moyens pour une femme d'arriver à gravir les échelons qu'en se mettant des pulls moulants et du rouge à lèvres assassin tous les matins. Alors je trouve qu'entre ces deux personnages, il y a une dynamique très intéressante également.
Il y a une dynamique très intéressante. Alors je dans la deuxième saison et dans un épisode que tu n'as pas vu parce que c'est le dernier épisode de la deuxième saison. D'ailleurs Jenny va subir un retour de bâton terrible. C'est-à-dire que la sexualité qu'elle a utilisée comme une arme pendant plusieurs années et qui d'ailleurs ne lui profite pas vraiment parce que elle n'aura pas de relation suivie avec le partenaire de la firme dont elle était la maîtresse, qui va finir par la quitter. Elle va trouver un mari
médecin.
Mais son mari médecin, avec lui, il va se passer quelque chose qui va prendre une dimension extrêmement amère par rapport au rôle qu'elle a joué jusqu'à présent et au rôle qu'elle croit qu'elle va jouer dorénavant en tant qu'épouse de ce médecin.
Ah bah là, tu me mets l'eau à la bouche, il va falloir que je me...
Ouais. Et c'est très représentatif de cette série, qui est une série dans laquelle... Moi, je considère que c'est une série télévisée qui a plus à voir avec les films de Ozu des années 50 qu'avec les séries américaines auxquelles on est habitué. C'est-à-dire que tout est feutré, tout est dit en demi-teinte. Il y a des relations qui s'établissent entre Peggy et le prêtre, le jeune prêtre qui est joué par Colin Hanks, qui est excellent dans la deuxième saison, le jeune prêtre de sa paroisse, de la paroisse de sa mère, autour justement de cet enfant qu'elle a eu et qu'elle ne garde pas, mais qui reste comme ça en filigrane. Enfin, il existe cet enfant, même s'il n'est pas dans le champ, il existe. Il y a des relations comme ça qui sont tout le temps feutrées entre les personnages et qui prennent une dimension absolument extraordinaire. Parce que, précisément, chaque fois que quelqu'un pose un acte, on en voit les conséquences, parfois tout de suite, mais parfois très longtemps après. Et puis, la saga de Don Draper continue, toujours une saga d'ailleurs de recherche au travers des femmes, puisque à un moment donné, Don Draper est envoyé en Californie pour faire un contrat avec un de ses petits camarades, qui est le camarade, l'homme justement qui a couché avec Peggy. Et puis... il va, à un moment donné, il va quitter le paysage. Alors, tu ne l'as pas vu non plus. Il va quitter le paysage, à nouveau, d'une manière extrêmement signifiante, et toujours au travers d'une rencontre avec une femme. Donc, il y a quelque chose chez Don Draper qui est très très important, qui est le fait que cet homme est un homme qui prend des décisions... sans avoir eu de père qui lui apprenne à prendre ses décisions, parce qu'il a été adopté par le second mari de sa mère, qui est morte et qui donc a été remplacée par une autre mère, c'est-à-dire qu'il a été et qui est morte en couche, etc. Cet homme qui n'a jamais eu d'homme pour lui indiquer comment prendre des décisions, qui prend des décisions d'homme, est irrésistiblement infléchi dans sa trajectoire par les rencontres qu'il fait avec des femmes et qui sont des rencontres qui n'ont pas directement à voir avec le sexe. Ce qui l'intéresse d'ailleurs, c'est pas le sexe, c'est une relation affective et presque intellectuelle, parce que c'est toujours des femmes intellectuelles qui l'intéressent. Sa femme son épouse légitime et pas une intellectuelle, justement. C'est quelqu'un qui est extrêmement réprimé, c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à exprimer ses sentiments, qu'il aime beaucoup, mais qui n'est pas quelqu'un avec laquelle il peut échanger des idées. Or, c'est un homme d'idées.
Absolument. Et elle incarne peut-être, par contre, le visage de la femme acceptable, la femme
que Don Draper doit
avoir quand on est beau et successful.
Exactement.
On a une femme comme la femme de Don Draper.
On a une trophy wife. C'est une trophy wife. Ouais. Qui n'est pas aussi creuse qu'il veut le croire lui-même, c'est-à-dire qu'elle-même, effectivement, des sentiments, des pensées, des troubles, mais qui n'est pas au diapason de ce qu'est Don. Alors évidemment, ils ont fait des enfants, c'est compliqué, mais lui, il est intéressé par des femmes qui le stimulent intellectuellement. Et ça, c'est très très intéressant, je trouve, parce que c'est pas quelque chose qu'on voit très souvent non plus dans les fictions télévisées.
Pour revenir à ce personnage, une des choses qui me semble, et le personnage du jeune Campbell, qui est donc celui avec le couche Peggy,
oui.
Ce qui est brillant dans cette émission, c'est que, surtout dans les premières émissions, il y a l'angoisse du bonheur, qui est un thème récurrent. Cette Amérique de la fin des années 50 et début des années 60, qui a donné à des gens comme Don Draper et sa femme, apparemment, tout ce qu'un être humain pourrait vouloir. Donc, une belle maison, des enfants en santé, de la richesse, une belle voiture. Et il y a de nombreux échanges entre la femme de Don Draper et d'autres, parfois avec Don. « We're happy, aren't we? » comme s'il y avait quelque chose dans la culture américaine de cette époque qui cherchait ultimement à faire disparaître la souffrance, à faire disparaître l'angoisse, mais de manière absolument impossible, puisqu'elle est là, et tous les deux, donc ces deux personnages centraux, sont des personnages extrêmement angoissés, mais qui sentent à différents égards qu'ils ne peuvent pas l'être, parce que la culture américaine, dont ils incarnent le rêve, en quelque sorte, le leur interdit. Et donc, cette souffrance est particulièrement palpable dans le cas de Draper, qui cherche constamment à s'échapper, mais qui est constamment également rappelé. Je ne sais pas s'il disparaît à la fin de la deuxième saison, j'espère que non.
Non, c'est au milieu de la deuxième saison qu'il s'échappe, mais il ne disparaît pas. Nous, on le suit, on le suit dans son itinéraire, mais son itinéraire est très atypique, puisqu'en fait, il s'échappe sans rien dire à personne, et que donc, pendant trois épisodes, he's gone missing, et tout le monde se demande où il est passé.
Il va falloir que je me tape une nuit blanche à regarder les derniers épisodes ce soir.
Ouais, mais ce qu'il y a de merveilleux dans cette série aussi, c'est que moi, j'ai commencé à la revoir. Et évidemment, ce qu'on apprécie beaucoup quand on le voit, c'est-à-dire on est sous le choc de la vision de cette série. Et quand la deuxième fois on la voit, on voit toute la profondeur qu'on a subodorée en la voyant pour la première fois. On voit la profondeur de l'écriture et l'intelligence de l'écriture de cette série qui est vraiment
admirable. Il y a une très grande profondeur. Il y a également, et j'utilise le terme de manière tout à fait non péjorative, une très grande superficialité.
Oui.
C'est une des séries télévisées qui a le plus soigné les surfaces.
Ah oui, c'est d'une beauté
La personne qui fait les vêtements, la personne qui fait les décors, les personnes qui font les décors, ont véritablement... ils n'ont pas recréé une version réaliste des années 50-60. C'est une version en fait imaginée, rêvée,
à partir des pubs. À partir des pubs.
Voilà.
Mais et alors, il faut quand même dire quelque chose que moi je trouve absolument admirable, c'est le générique. Le générique, c'est quoi ? Le générique, c'est un homme qui tombe. C'est un homme qui laisse tomber. C'est un exécutif avec un attaché case à la main qui laisse tomber l'attaché case par terre. Et puis l'immeuble, c'est un générique dessiné. Hein, c'est un générique en animation. L'immeuble tombe en pièces et lui, il tombe le long des buildings. Il finit sur le pied d'une femme qui est recouverte d'un bar, etc. Et on le voit, après être tombé, être assis en fumant sur un canapé, c'est-à-dire qu'il tombe dans sa tête, il tombe dans son imaginaire. Et je trouve que c'est... Enfin, moi, j'ai jamais vu de générique à la fois aussi beau et en même temps aussi représentatif de tout l'esprit de la série.
Chemin faisant, c'est une série qui réussit également à nous faire voir un certain nombre de problématiques sociales, l'homosexualité, un personnage homosexuel réprimé. Il y a également une tentative de séduction d'une femme par une autre femme qui échoue. Mais encore une fois, dans les deux cas, c'est le déni. Hein, c'est le déni même de pouvoir accepter qu'on ait à composer avec des sentiments, avec des pulsions qui soient autres qu'hétérosexuelles. Il y a l'avortement. Bon, évidemment, c'est la période de l'élection Nixon-Kennedy. Explicitement, officiellement, tous les gens dans le bureau sont des partisans de Nixon, comme quoi la nécessité historique qu'on a faite a posteriori et qui nous a fait penser que l'époque Kennedy ne pouvait être que ce qu'elle a été. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a énormément de gens qui auraient voulu que la période Kennedy n'ait jamais lieu, comme il y a énormément de gens aujourd'hui qui auraient voulu que la période Obama n'ait jamais lieu et qui ont voté pour un personnage qui a été, mais qui est revenu plus tard, faut dire, dans l'histoire américaine. Donc, l'avortement est également un thème qui est abordé, mais toujours de manière, on n'en fait jamais un grand cas, toujours de manière extrêmement subtile, extrêmement légère, donc des clins d'œil, des polaroïdes sur la vision que se faisait l'Amérique de ses problèmes sociaux il y a une quarantaine d'années. Donc le temps est venu de nous souhaiter un bon été. En tant que bonne série, qu'est-ce que fait une bonne série à la fin en arrivant à l'été? C'est qu'elle essaye de faire de sorte que ses téléspectateurs ou ses auditeurs veuillent revenir la suite en créant ce que les Américains appellent un cliffhanger. Donc qu'est-ce qui va se passer la saison prochaine? Alors nous avons décidé, Marc et moi, de partir notre prochaine saison en parlant non pas d'émissions que nous aimons tous les deux et sur lesquelles nous pourrions parler pendant des heures, mais d'émissions sur lesquelles nous pourrions parler pendant des heures, mais sur lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Donc, des émissions, une émission que j'aime et que Marc n'aime pas, une émission que Marc aime et que je n'aime pas. On ne vous livrera pas l'identité de ces émissions. On vous souhaitera un bel été et au plaisir de vous retrouver à l'automne.
Au revoir.